C'est un petit peu difficile de, ici de faire semblant d'être seulement une historienne après ce qu'ont dit Maria Migus et Jacqueline. C'est un colloque d'historiens, mais c'est aussi un anniversaire, c'est-à-dire aussi un peu une fête. Et bon, je suis la première parmi les historiens à parler, et je ne peux pas du tout m'abstraire de mes souvenirs du 50e anniversaire du Cercle Amical et ne pas penser, comme je l'ai fait pendant toute la préparation de cette communication, à ceux qui nous étaient très chers et dont en fait la présence hante un petit peu ces lieux. Je vais faire trois remarques. La première remarque, c'est que nous commençons à la révolution bolchévique de 1917, c'est-à-dire à un moment où le Bund a déjà derrière lui 20 années d'histoire, où il s'est construit, car le Bund n'est pas né tout construit, et du point de vue de son organisation, et du point de vue de son idéologie, et il s'est construit dans un double lien. Un lien avec ce que l'on appelle dans le vocabulaire de l'époque les masses juives et un lien avec aussi les autres mouvements qui appartiennent à la social-démocratie russe. Les liens du Bund avec la social-démocratie russe ont été des liens à la fois d'union et de conflit, le conflit ayant porté principalement sur les questions d'organisation et sur la question de l'autonomie nationale culturelle. Le Bund, en 1917, est un parti important, puisqu'on le crédite d'environ 33 000 membres. Ma seconde remarque concerne l'ensemble de la vie politique juive. Le Bund n'était pas le seul parti politique qui était présent dans ce qu'on appelait à l'époque la rue juive, la Yiddische Gasse. Dans les années qui précèdent la révolution russe, le Bund reste distancé par les partitionnistes. Ma troisième remarque concerne le poids d'un événement qu'on a tendance parfois à oublier, qui est le poids de la guerre de 14-18 sur les Juifs de l'Empire tsariste. Les Juifs à l'époque tsariste étaient privés de tous les droits et vivaient entassés dans ce que l'on appelait la zone de résidence, c'est-à-dire une sorte de territoire d'une très très large bande territoriale qui se trouvait à l'ouest de l'Empire tsariste, un peu sur ses marges, et qui allait des pays baltes jusqu'à la mer Noire, de la Pologne jusqu'à la Biélorussie. Cette zone, on a aussi tendance à l'oublier, est une zone extrêmement hétérogène qui est peuplée par des populations diverses qui ne sont pas toutes des populations russes. Il y a les différentes populations baltes, il y a les grands Russiens, les petits Russiens, c'est-à-dire les Ukrainiens, les Biélorusses, mais surtout c'est cette zone de résidence qui est le champ de bataille de la guerre de 14-18. Cela signifie qu'elle est traversée à plusieurs reprises par les armées et que ce champ de bataille est un champ de bataille sanglant. Les populations juives de la zone de résidence, ce sont des populations qui ont souffert d'abord de leur situation dans l'Empire tsariste, mais qui auront bien plus souffert de ce qui s'est passé pour eux pendant la guerre de 14-18. Tout cela pour dire que, dans leur ensemble, les populations juives accueillent très bien les premiers événements révolutionnaires de l'année 1917, c'est-à-dire la révolution de février, en date de l'époque dans l'Empire tsariste. La révolution de février est donc une révolution qui est bien accueillie par les populations juives, d'autant qu'un des premiers actes du gouvernement provisoire, c'est l'émancipation des juifs. Par deux fois dans l'histoire des Juifs, la révolution amène l'émancipation. La première fois, c'était la Révolution française. Je crois que quand on réfléchit un peu à la sorte de tropisme qui a poussé jusqu'à des époques récentes les Juifs vers des mouvements révolutionnaires, je pense à toute la nébuleuse gauchiste, il y a peut-être une sorte de mémoire de ce que les révolutions ont apporté aux Juifs. Mais la révolution de février 17 est bien différente de la révolution française. La révolution française propose aux Juifs d'entrer individuellement comme citoyens dans le monde moderne. La révolution de février 1917 ouvre aux Juifs une autre perspective, qui est celle d'entrer non pas comme un individu, mais d'entrer en tant que nation. Et je vais citer un bref appel qui date de janvier 1918 au congrès juif pan-russe, ça veut dire de toutes les Russies, et dans le terme de toutes les Russies, on compte des populations qui ne sont pas russes au sens où on l'entend, et ce congrès devait jouer le rôle d'une assemblée constituante. Je cite, « Citoyens juifs, le peuple juif de Russie se trouve placé devant un événement qui n'a pas de parallèle dans l'histoire juive depuis 2000 ans. Les juifs n'ont pas seulement obtenu comme citoyens l'égalité des droits, ce qui est aussi arrivé dans d'autres pays, mais la nation juive aspire à la possibilité de s'assurer des droits nationaux. Les juifs n'ont jamais nulle part vécu un moment aussi crucial, aussi lourd de responsabilité qu'aujourd'hui, lourde responsabilité pour les générations présentes et à venir. » C'est donc cette possibilité d'entrer comme nation, c'est-à-dire en ayant tout à la fois des droits de citoyens et des droits nationaux, qui s'ouvre pour un temps bref en février 1917. On pourrait dire que la révolution bolchévique a en fait duré de 1917 à 1921. Ce sont 4 années qui mériteraient être traité dans une chronologie très fine. Ce sont des années pendant lesquelles le Bund a très rarement l'initiative, mais qu'il se trouve constamment confronté à des situations inédites et dramatiques auxquelles il doit trouver très rapidement des réponses. La révolution de février, je vous l'ai dit, crée une sorte d'unanimité. Dubnov parle pour cette révolution de soleil de printemps pour tous les peuples de Russie. Il est beaucoup plus sévère pour la révolution de février. Je cite toujours Dubnov. Pour lui, c'est un coup de tonnerre qui anéantit toutes les conquêtes de la révolution de février. Il parle pour octobre 1917, je cite toujours Dubnov, de catastrophe. Il dit de cette révolution que c'est une révolution de parti, c'est-à-dire l'acte d'un groupe d'usurpateurs qui aspirait à la dictature, et Dubnov parle pour cette révolution encore de coup d'État. Quelle est la politique des bolcheviques à l'égard des Juifs? Le premier acte du gouvernement bolchevique dans ces questions, c'est la mise sur pied d'un commissariat aux nationalités. Et ensuite d'un commissariat aux affaires nationales juives qui est mis sur pied en janvier 1918. L'idée, c'est de pouvoir construire une sorte de pont entre le régime bolchevique et la population juive, car, de façon extrêmement curieuse, la population juive de langue yiddish, le petit peuple, les masses juives, n'ont été l'objet d'aucun travail particulier des bolcheviques. Les bolcheviques ne sont absolument pas, pour reprendre le vocabulaire politique qui est le leur, implantés dans les masses juives. C'est ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de juifs parmi les bolcheviques. Mais les juifs qui sont nombreux parmi les bolcheviques sont des juifs qui ont rompu
avec parfois d'ailleurs, ce n'est pas la première génération, mais c'est parfois à deux générations, qui ont rompu avec, avec le milieu juif. Ce qui ne veut pas dire non plus que le fait qu'il soit juif ne joue pas, mais nous sommes ici dans un autre débat. Ce commissariat est confié à un homme qui s'appelle Diemenstein, et dans un premier temps, il ne sait pas trop quoi faire de ce commissariat. Et il va créer un certain nombre de départements chargés de s'occuper des problèmes qui se posent aux Juifs. Problèmes de culture, problèmes d'éducation, mais aussi problèmes matériels, car des Juifs ont quitté la zone de résidence, ils sont réfugiés, il faut les installer ou les réinstaller. Et ce commissariat, on voit d'ailleurs ces Juifs le plus souvent aux keilotes locales, c'est-à-dire aux communautés juives traditionnelles, afin qu'elles puissent leur fournir notamment de la nourriture cachère. Les choses se modifient, bougent en août 1918, quand Lénine crée à l'intérieur, au sein du parti, ce qu'on appelle la Yevsekties, c'est-à-dire la section juive, ou les Yevsekties, puisque ces sections sont ramifiées dans tout le pays. Et c'est aussi Diemenstein qui en a la charge. Lors d'une réunion à Moscou pour tenter de coordonner l'ensemble de ces activités qui a lieu en octobre 1918, 60 délégués sont présents. Sur ces 60 délégués, 33 ne sont pas bolcheviques, donc la majorité des délégués ne sont pas bolcheviques, et la profession qui est le mieux représentée parmi ces délégués est celle de professeurs ou d'enseignants de yiddish, puisque 38 de ces délégués sont enseignants de yiddish. Ce qui veut dire qu'à l'époque, au sein de la Yevsekhtsia, il n'y a pas de domination bolchevique, et le yiddish est prépondérant. La position de Diemenstein, pourtant, est une position claire, qui sera la position constante. Les nations juives ne constituent pas un parti, mais sont soumises au parti. Les Yevsekhties, ou la Yevsekhtsia, sont là pour introduire la dictature du prolétariat dans la rue juive, dans la Yiddishe Gasse. Pendant que la Yevsekhtsia essaye de se définir, de définir sa politique et de se construire dans une absence totale de cadre étant capable de mettre sur pied des activités, notamment une presse en yiddish. À l'intérieur des partis juifs et singulièrement du Bund, la situation est difficile. On peut dire qu'il y a dans les partis juifs, au moment de la révolution bolchevique, une crise interne. Première remarque, c'est qu'une grande partie des bundistes ne se trouve plus en Russie. À peu près deux tiers, on estime à 20 000 à peu près, le nombre de bundistes qui ont quitté la Russie après les événements révolutionnaires pour aller principalement en Pologne. La deuxième remarque, c'est que le Bund de 1918 n'est pas exactement le même que celui des années précédentes. Une partie des dirigeants bundistes a été dispersée. Il y a eu des adhésions nouvelles, et qui dit adhésion nouvelle dit expérience et culture politique qui n'est pas tout à fait identique. Par exemple, ceux qui ont connu la grande crise de 1903, quand le Bund a été expulsé de la social-démocratie, sont à l'époque beaucoup moins nombreux. La troisième remarque que je vais faire, c'est qu'il existe à l'intérieur du Bund, dans ces années-là, une tendance pro-bolchevique. Une tendance pro-bolchevique, d'autant qu'un événement a un écho considérable, c'est la révolution en Allemagne. À ce moment-là, il y a l'idée que la révolution va aussi triompher en Allemagne pendant un temps très bref, donc que les bolcheviques ont raison, puisque, en fait, la révolution d'octobre n'est que la première d'une série de révolutions qui va faire basculer le monde. Pourtant, malgré cela, le Bund, même dans la tendance pro-bolchevique, souhaite maintenir l'indépendance politique, maintenir aussi l'idée qui est au cœur de la pensée bundiste, de l'autonomie culturelle. Mais en réalité, ce sont les événements eux-mêmes qui vont décider du destin du Bund. Et les événements, ce sont ceux qui se déroulent d'abord en Ukraine. Quand nous disons Russie ou pan-russe, nous incluons dans le terme de Russie, je l'ai dit tout à l'heure, des zones différentes, et notamment l'Ukraine, qui est une zone essentielle de peuplement juif, avec des centres comme Odessa, 150 000 juifs dans ces années-là, Kiev, 50 000 juifs, mais aussi des villes comme Ekaterinoslav ou Berdichev, qui est la ville de Vassili Grossman, par exemple, et un très grand nombre de bourgades. Parallèlement au mouvement bundiste, il existe aussi en Ukraine un mouvement nationaliste ukrainien. Et ce mouvement nationaliste ukrainien souhaite, dans ces années de très grand remue-ménage que sont les années de guerre et de révolution, que l'Ukraine devienne indépendante. Il crée un conseil central, la Rada, auxquels les juifs participent. En revanche, les juifs ne soutiennent pas, s'abstiennent, la proclamation de la République populaire d'Ukraine. Mais déjà, nous sommes à la fin de l'année 17, se sont déroulées des émeutes anti-juives, des pogroms dont on a attribué la responsabilité à Petlura. Petlura est au sein du gouvernement provisoire ukrainien, je vais un peu vite dans les définitions des institutions, le responsable des affaires militaires. Il promet de faire quelque chose, mais il ne fait rien. Ces pogroms ne vont pas être les seuls, puisque les Cosaques de Petlura vont être relayés par les armées blanches de Denikin. Et ces pogroms se déroulent à une échelle que l'on n'a plus vue depuis le XVIIe siècle. Les pogroms de la fin du XVIIIe, c'est ceux des années 1880 qui ont fait que des juifs massivement ont émigré, sont venus en France ou aux États-Unis, ou les pogroms comme celui de Kishinev, qui avait soulevé des émotions considérables, sont des pogroms où les victimes se comptent sur les doigts des deux mains ou par dizaines. Et cela suffit à remuer l'opinion internationale. La guerre de 14-18 change la norme du massacre. Et les pogroms, soit attribués à Petlura, soit ceux de Denikin, font des morts par dizaines de milliers et détruisent tout l'environnement qui est l'environnement juif. Devant ces pogroms, le seul salut est l'armée rouge, quoique l'armée rouge ne soit pas totalement exempte de pogroms. Je renvoie à la cavalerie rouge d'Isaac Babel, juif ukrainien d'Odessa. Mais les instructions sont extrêmement claires, les pogroms sont hors la loi et il arrive que certains soient punis, ce qui n'est pas le cas ni pour les bandes de Cosaques, ni pour les armées blanches. Les Juifs, à ce moment-là, quittent les bourgades et s'enrôlent pour combattre dans l'armée rouge. Et l'armée rouge crée même des unités pour les Juifs, des unités qui prennent le nom de Berborov. Ce sont les unités Poaletzion, sionistes. Mais aussi une unité qui prend le nom de Bronislav Grosseur. Bronislav Grosseur avait été un des fondateurs de ces institutions dont a parlé tout à l'heure Maria Migus, des Arbeiter Kinderheim, vous excusez mon accent, qui ont donné naissance à tout ce groupe d'écoles qu'on a appelé le Tzichow, qui étaient les écoles en langue yiddish. Il y a donc, en somme, dans cette période-là, cette idée que la seule protection contre les pogroms, c'est la protection qui peut être donnée par l'armée rouge. Et trois tendances se dessinent alors au sein du Bund ukrainien, une tendance de gauche, une de droite, une du centre. La tendance de gauche, l'aile gauche qui est conduite par Moïse Rafes, est une tendance qui prône finalement un parti séparé mais proche des communistes qu'on va appeler le Konbund. Alors on me fait signe comme je ne voudrais pas dépasser. Je vais dire très...
Ça va.
Je vais dire très simplement que ce Konbund ne peut jamais devenir une institution autonome et que le Konbund va être sommé de rentrer à l'intérieur des sections juives et d'être soumis à la discipline et à la direction du parti. Donc c'est en Ukraine. Mais avec un décalage chronologique, les choses se passent de façon pratiquement analogue dans une autre zone qui est une zone très importante de peuplement juif, qui est la Biélorussie. On a le même mouvement, la même crise, et finalement l'idée qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'entrer au sein du Parti communiste. Et c'est finalement en 1921 que, avec un sens de la perte et probablement une très grande culpabilité, des délégués à la conférence du Bund vont finalement abandonner, s'autodissoudre. Je cite « Travailleurs juifs, le Bund ne vous abandonne pas, mais demeure avec vous. Il vous conduit sous la bannière du Parti communiste de toutes les Russies. Apportez votre amour, votre confiance, votre foi dans le Bund, dans cette grande alliance, où quand l'heure sera venue, le mouvement du prolétariat juif émergera. » Alors, ce que je voulais dire, c'est pour ça que je voulais garder quelques minutes, je voulais dire que l'on peut voir qu'en 1921, une partie de l'histoire du Bund se termine, celle de l'histoire du Bund de Russie. Je pense que cette histoire mériterait qu'on y réfléchisse davantage, pour deux raisons. La première raison, c'est que à partir de ce moment-là, apparaît un acteur nouveau dans la vie juive, qui est l'acteur communiste. Et que en France, par exemple, et je fais moi aussi amende honorable, on a par exemple toujours considéré la section juive du Parti communiste français comme étant purement endogène, purement née du Parti communiste français, alors que finalement on a un modèle qui est un modèle qui naît de la révolution bolchévique et qu'il existe une section juive du Parti communiste en France, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, mais aussi en Belgique, c'est-à-dire dans tous les pays où existe une immigration juive yiddishophone. La deuxième remarque, c'est la question du choix. Et je renoue la vieille discussion avec Maurice Felgentreib, que nous avons depuis 2 ans peut-être, sur qu'est-ce qui s'est passé pour Erich et Alter. Comment Erich et Alter, en 1941, ont pu faire confiance aux bolcheviques. Je pense que finalement, la situation qui a été celle des Juifs en Russie devant l'avance hitlérienne est une situation qui n'est pas sans analogie avec celle qu'ont connue les Juifs en Ukraine dans les années 1919-20. Et que cette situation est une situation d'aporie absolue. La situation est la suivante. Que va-t-on sauver? Va-t-on essayer de sauver physiquement le peuple juif en faisant une alliance avec des gens dont on sait que l'idéologie s'oppose à ce qui est au cœur de sa propre pensée, c'est-à-dire le une certaine vision du socialisme et l'autonomie culturelle, ou est-ce qu'il faut pendant un temps s'allier avec eux pour sauver physiquement le peuple juif? Et je pense, puisque Jacqueline Gluckstein tout à l'heure souhaitait que l'on s'intéresse davantage à l'histoire, qu'il serait peut-être intéressant de revisiter toute l'histoire de la période du comité juif antifasciste à la lumière de ces années cruciales qui ont été les années de la révolution bolchévique. Merci.